à tous, comme un mercredi de la petite à la grande histoire. Peut-on réécrire l'histoire à l'infini? Avec quel parti pris? Alors que notre récit national est au cœur des débats, Le Seuil publie une ambitieuse et volumineuse histoire mondiale de la France, un ouvrage collectif, La France en 146 dates. L'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui l'a dirigé, cet ouvrage, sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, jamais contente, je ne parle pas de moi, bien sûr, mais d'elle, oui. Émilie Deleuze, la réalisatrice, et Marie Desplechin, écrivain et co-scénariste de ce film, journal de bord d'une adolescente, en salle aujourd'hui, sont les invités de la première partie de La Grande Table. La Grande Table, le rendez-vous des arts et des idées à écouter en direct ou à podcaster. Pour être sûr de ne rien manquer, c'est tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Je suis nulle.
Pas pour moi. Moi, je te trouve formidable.
Tu dis ça pour être gentil ou pour me faire pleurer?
Oh, allez, arrête.
Et c'est toute la question philosophique même. L'adolescence, faut-il en rire ou en pleurer? À décliner avec nos invités aujourd'hui, réalisatrice labellisée La Fémis, de courts, de téléfilms et de deux longs Peau Neuve en 99 et Mister V en 2003. Émilie Deleuze revient là où on ne l'attendait pas forcément, avec Jamais Contente, adapté du journal d'Aurore, roman de Marie Desplechin, qui a aussi mis sa patte au scénario. Le journal d'Aurore, d'abord feuilleton pour Miss Star Club, un magazine pour filles, en devenir, jeune et jolie, devenu roman en 3 tomes, sous la forme du journal intime, puis BD sorti en juin cette année avec Agnès Mauprès au dessin, et enfin film en salle aujourd'hui, bande-annonce.
L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se passer.
On va commencer avec l'incontournable Princesse de Clèves.
Déjà la princesse, elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, hyper riche. À qui est-ce qu'elle va demander conseil? À sa mère.
Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça?
Ah, elle est chiante, hein. Elle n'est plus rien, elle est comme ça.
Il faudrait que tu sois plus gentille avec maman. Mais je suis gentille.
Je la conduirai dans la forêt. T'en fais pas. Elle trouvera ses petits cailloux.
C'est ça le problème, elle trouvera ses cailloux et va revenir.
Je suis toujours là pour toi. Si tu veux qu'on sorte ensemble.
Je vois pas du tout l'intérêt. Déjà, j'avais du mal à t'aimer tous les jours. Il en faut combien, tu crois, pour trouver le bon?
Écoute, 1, 2, 3, 5, 6.
Voilà, je vous préviens, c'est une bonne nouvelle. Vladimir m'a demandé. Et j'ai dit oui.
T'as dit oui pour... à quoi?
Pourquoi?
Si Jessica, elle peut se marier, est-ce que je peux aller à la fête chez Samira?
On cherche une chanteuse, j'ai pensé à toi.
Moi? Je suis nulle.
Moi, je te trouve formidable.
Tout ce qu'on te demande, c'est de chanter.
Pour pouvoir les chanter, faudra que j'essende les paroles.
Au concert, on a une date arrêtée finalement.
Je vais me suicider et je reviens.
On t'attend pas du coup.
L'adolescence, argue, l'adolescence, ces affres, ce gouffre existentiel. On est tous plutôt contents d'en être sortis, ici autour de cette table, en tout cas je suppose. Aurore, elle, a 13 ans et les deux pieds dedans et bien dedans. Ses parents sont évidemment atroces, ses profs forcément la détestent et elle est hyper malheureuse. Mais show must go on et la vie aussi. Bonjour Émilie Deleuze.
Bonjour.
Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Jamais contente, c'est l'histoire d'une adolescente ordinaire comme les autres, Émilie Deleuze?
Absolument. C'est-à-dire qu'elle est effectivement désespérément normale pour elle. Et c'est ça son problème. Donc, elle a une famille, enfin normale, le mot est toujours un peu délicat, mais elle n'a rien en tout cas dans sa vie qui pourrait justifier cette colère qui est en elle et qu'elle exprime avec tant de maestria.
Si on pouvait autopsier le cerveau de l'ado Aurore, Marie Desplechin, puisqu'elle est sortie de votre imagination à vous, cette héroïne, vous pensez qu'on y trouverait quoi?
C'est compliqué comme question. On y trouverait les raisons de sa colère, puisque vous en parliez tout à l'heure.
Donc elle est en colère?
Oui, oui, puis il y a de quoi être en colère quand on est obligé de quitter l'enfance, qui est quand même une période qu'on a tendance à considérer. Déjà, dès l'enfance, les enfants sont nostalgiques de l'enfance qu'ils sont en train de vivre. Et d'être obligé de se conformer à un tas de normes qui sont insupportables. Et après, on trouverait, oui, tout le...
Qui leur sont insupportables, en tout cas, parce qu'elles sont pour la plupart
justifiées, ces normes. Vous savez, vous disiez tout à l'heure que l'adolescence était une période qu'on avait laissée derrière nous, et grâce à Dieu, mais vous parlez pour vous. Parce que heureusement, certaines...
Vous aimeriez y retourner ?
Mais moi, j'y suis encore en bonne partie. Et je ne voudrais pas m'avancer en disant que...
Elle me regarde.
Oui, voilà. Émilie n'en est peut-être pas si loin. Il y a une partie de cette capacité à la fois de protestation et d'émerveillement qui est très vivace à l'adolescence, puisque c'est le moment de toutes les premières fois, de toutes les premières fois qu'ils vont vous fonder comme adultes. Et si on perd la source de ça, de la fureur, de l'étonnement, de la fureur et de l'émerveillement, quand on devient une dite grande personne, on est un peu moche.
Étonnement, colère, émerveillement, on trouverait peut-être tout ça si on autopsiait effectivement le cerveau d'Aurore. À quoi ressemble le monde vu de ses yeux à elle? Est-ce qu'elle a un regard qui vous semble assez déformant finalement sur la réalité ou au contraire extra-lucide, Émilie Deleuze?
Ah ben, en tout cas, le regard est drôle. C'est ce qui a fait que je suis partie immédiatement sur ce film. C'est pour moi, les deux caractéristiques d'Aurore, c'est l'intelligence et la drôlerie. D'ailleurs, ça va en général ensemble. C'est-à-dire qu'elle a une maturité extrême sous son regard d'enfant pour juger un monde et une telle dose de mauvaise foi que, bah, tour à tour, ce qu'elle dit sur le monde et ce pourquoi le monde pour elle ne va pas, à la fois est juste et à la fois, je vous dis, de telle mauvaise foi qu'on ne peut pas s'empêcher d'être stupéfait et muet face à elle.
Et c'est là que ça, vous avez choisi, vous, de placer votre caméra à la fois face à elle, c'est-à-dire qu'on la regarde vivre, grandir, observer le monde, et dans ses yeux à elle, pour comprendre comment elle voit le monde qui l'entoure.
Ouais, moi, j'ai assez vite compris que pour rendre compte de la grandeur d'Aurore, il fallait la coller. D'abord parce que ça, c'est le roman est sous forme de journal intime, et même si avec Marie et le scénariste, on a tiré le journal intime vers quelque chose d'un peu plus narratif, avec des événements ponctuels qui obéissent au code du genre du teen movie, il fallait quand même rendre compte de cette particularité d'Aurore. Et si on n'était pas en permanence avec elle, on pouvait pas comprendre son système. Et c'est un système, c'est une petite machine, Aurore. Elle a, de par cette intelligence, elle a un fonctionnement qui marche très très bien. Et elle sait comment attaquer, elle sait comment se confronter à des situations qui sont, ce que disait Marie, des premières fois, alors qu'elle les a jamais vécues. Donc ça, c'est sa force à elle et sa drôlerie, c'est que justement nous, spectateurs, on comprend assez vite comment elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle va rejeter tout en bloc, mais de manière très particulière, très personnelle. Et du coup, ça devient drôle, quoi.
Il fallait à tout prix éviter pour vous les contre-plongées, c'est-à-dire ne pas placer aussi la caméra ni trop haut, ni trop bas, ne pas la regarder du dessous avec une certaine complaisance, ne pas la regarder non plus du dessus, avec un certain mépris pour ce temps de l'adolescence, pour cette jeune fille en devenir. C'était important de savoir où positionner la caméra par rapport à elle.
Ah bah oui, parce que même j'espère que jamais je ferai un film en jugeant qui que ce soit. Enfin, je peux pas imaginer m'approcher d'un personnage si je l'aime pas infiniment. Et Aurore est infiniment aimable, même si elle crie sur tous les toits qu'elle ne l'est pas. Mais à tel point que je me suis sentie très 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 proche d'Aurore et que elle continue à me hanter. Mmh. Une fois que c'est ça qui me fascine chez elle, c'est pour ça que c'est si jouissif à faire et pour moi à regarder. Je sais pas si le spectateur me suivra, mais y a quelque chose chez elle qui est génial parce que c'est de la jouissance pure de face à des situations. Vous avez quelqu'un dont vous connaissez les principes, vous apprenez à la connaître et quand vous la connaissez, vous n'attendez plus qu'une chose, c'est non pas est-ce qu'elle va rencontrer un garçon ou est-ce que il va lui arriver tel ou tel événement. On sait plus ou moins les événements qui vont lui arriver. Ce qui est génial avec elle, c'est que on sait qu'elle va attaquer et on ne sait pas comment. Donc le pauvre, je prends l'exemple du pauvre garçon qui arrive pour lui faire une déclaration d'amour. Moi, quand je vois le garçon, j'ai déjà de la peine pour lui parce que je sais qu'il va se faire mais matraquer. Sauf que je ne sais pas comment, quelle arme elle va utiliser. Et en général, les armes d'Aurore sont infiniment drôles.
Il essaie de remettre le couvert et elle n'en a pas très envie. C'est ça, en gros, Marie Desplechin. Pourquoi elle se fait une montagne de tout, cette adolescente type, cette adolescente de cinéma qu'est Aurore?
dans Jamais Contente.
Mais parce qu'encore une fois, à l'adolescence, il y a d'excellentes raisons de se faire une montagne de tout. Parce que tout est une montagne. D'ailleurs, ça pourrait même être une définition de l'adolescence. C'est allez-y, arrivez en haut et puis après, bon, redescendez si vous voulez. Mais... Et c'est... Aurore, c'est un personnage qui ressemble. C'est un personnage, parce que, enfin, quand les gamines lisaient le film, et je pense qu'il y a eu ces réactions-là aussi quand elles voient le film. Et quand je dis les gamines, je peux dire les gamins aussi. C'est la réflexion, c'est exactement ma vie. C'est cocasse parce qu'évidemment c'est pas leur vie puisque c'est ma vie. Donc je me souviens plus la question. Oui, elle ressemble et donc et ce qui est joli aussi, c'est que les parents ou les proches en voyant le film disaient que ces adolescents qui les exaspéraient après avoir vu le film, ils les voyaient différemment, c'est-à-dire que leur regard, il était adouci par le prisme que créait le film. Il y a de quoi être en colère quand on doit monter la montagne et puis qu'on vous dit que c'est normal et qu'il n'y en a pas censé faire d'histoire et que personne ne prend en compte l'effort héroïque que vous faites chaque jour pour vous conformer à ce qui est en train de vous arriver. Et je ne vous parle même pas du bouleversement physique que vous êtes censé endurer. C'est, il y a quelque chose d'admirable dans ces 3-4 années-là.
Mais nous, on n'est pas comme ça, les adultes. On ne se fait pas des montagnes de tout. Qu'est-ce qui nous différencie, en fait? Est-ce qu'avec l'âge, que... Alors, je sais que vous êtes restée éternelle adolescente, oui, enfin, un petit peu, en tout cas, vous l'espérez, c'est ce que vous venez de dire, Marie Pléchat. Mais est-ce qu'il y a quand même, avec l'âge adulte, une prise de distance qui s'opère, une lucidité, peut-être la fin de cette insouciance que vous
évoquez?
Je ne pense
pas que ce soit une lucidité, parce que vous avez une lucidité propre à l'enfance et à l'adolescence qui est vraiment particulière, puisqu'ils n'ont pas appris à s'habituer. C'est, promenez-vous dans la rue avec un môme en ce moment, il va être vraiment au bord des larmes de voir les gens qui sont dans la rue. Mmh. Alors que vous passez, c'est fini, vous n'êtes plus au bord des larmes. Prenez un adolescent, l'idée d'embrasser quelqu'un pour la première fois. C'est une chose, c'est inouï en fait quand vous vous remettez à cette place-là. Et pour vous, ou alors ça peut être une, je sais pas, un petit stress, enfin, ce que vous voulez, quoi. Mais il n'y a rien à faire, c'est plus pareil. Et donc là, il y a vraiment un changement... Il y a un changement de statut, quoi. C'est un statut de l'être qui n'est plus pareil quand vous êtes adulte. Mais vous n'êtes pas obligé d'en perdre le souvenir. Vous en gardez un certain nombre de ressorts, mais quelque chose est fini.
Comment faire dans la vie, comme au cinéma, Émilie Deleuze, pour que ce ne soit pas deux mondes qui se confrontent, qui s'opposent? C'est un peu le cas au début dans le film, dans Jamais Contente. Les parents et Aurore sont forcément extrêmement en opposition. Elle se construit par rapport à ses parents et ses parents essayent de la suivre dans sa manière de grandir, d'appréhender le monde. Et puis, petit à petit, il y a une. C'est comme un film aussi initiatique. Ils se retrouvent, ils apprennent à se comprendre. Mais comment vous avez essayé de ne pas mettre en opposition ces deux mondes, le monde adulte et le monde adolescent?
Je crois que je sais pas bien, j'y ai pas pensé comme ça évidemment quand je l'ai fait. J'avais des préoccupations qui appartenaient plus à la narration et à rendre compte de ce qu'était le personnage principal.
Mais dans la narration, vous les avez pas oubliés, ces adultes?
Ouais, parce que je les aime autant que Aurore. Moi, j'ai été mère et je me suis cognée des charmants adolescents qui m'ont bien pourri la vie pendant 5-6 ans. Et je me souviens de l'état d'hébétement dans lequel on peut être face à des actions dites adolescentes, et en même temps on perd jamais l'amour qu'on a pour eux. Donc je voulais pas rendre compte d'Aurore avec cette fameuse prise de point de vue sur elle, sans jamais oublier ce qu'est en face la vie de ceux qui sont confrontés à Aurore. Parce que, en gros, dans un film, vous avez une action et vous avez une réaction. Soit vous choisissez que l'action, soit vous faites attention à ce qu'est la réaction. Et dans une comédie, souvent la réaction, c'est ce qui génère la comédie. Sinon, c'est tout le temps un drame.
Aurore dit à sa mère, t'es conne, tu ressembles à rien, t'as pas d'amis, j'en veux pas moi d'une vie comme ça. Aurore demande aussi de manière très étonnante à ses parents par qui elle a été abusée quand elle était jeune. Aurore, elle parle deux langues finalement, elle parle celle des ados quand elle est avec ses copines et puis elle parle celle des adultes quand elle est avec des adultes, comme beaucoup d'adolescents aujourd'hui. Elle a cette faculté d'adaptation, elle a surtout une répartie incroyable dans Jamais Contente, une langue bien pendue. Elle est consciente ou pas du pouvoir des mots? Aurore, Marie Desplechin.
Je sais pas.
Moi, je pense.
À votre avis, toi, tu penses que oui?
Ah ouais, moi, je pense. Je pense que, enfin, c'est ça qui m'amuse chez elle. Ou en tout cas, je me la suis racontée comme ça. Je me suis dit qu'elle comprenait pas bien le sens des mots, mais elle en comprenait le pouvoir en société. Et pour ça, elle est très mondaine, parce qu'elle est très, très douée pour effectivement foutre la merde. Mais donc, il y a des mots où elle sent bien. D'ailleurs, tu lui fais dire à un moment, je ne l'ai pas mis dans le film, mais à un moment, elle dit tiens, je vais utiliser ce mot-là, ça va faire un peu d'animation. Et elle sent, ce qui lui importe, c'est l'animation, ce n'est pas tant le sens réel du mot.
C'est vrai.
Bon, ben, vous êtes d'accord.
Je suis toujours d'accord avec elle, j'allais dire souvent, mais je me suis reprise.
Et Aurore, elle va au collège, elle redouble même sa cinquième, au début ça l'ennuie un peu, puis elle se rend compte que ça peut avoir quelques avantages, notamment quand un nouveau prof, un prof remplaçant, arrive.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Sébastien Couette. Voilà, donc ça fait rire au départ, moi ça me faisait rire aussi. 5 minutes hein, après, ça m'a passé. Je vais vous vouvoyer. Alors pourquoi je vais vous vouvoyer? Parce que j'ai envie de vous respecter, parce que j'ai envie de vous traiter pas comme des petits bébés. Vous pouvez vous redresser, mademoiselle, s'il vous plaît? J'aimerais vous expliquer aussi comment je vais vous évaluer. Chez moi, vous avez tous 10 au départ. Oh là là, incroyable, merci, merci de ce cadeau. Bref, pour démarrer ce nouveau système d'évaluation, on va commencer par la lecture d'un livre.
Ce couette est bourré d'ambition.
On va commencer avec l'inénarrable.
Et aucune chance qu'il tombe enceinte.
Qu'est-ce que c'est inénarrable? D'après vous, c'est quoi inénarrable?
Un truc qu'on ne peut pas ni narrer.
Qui ne peut pas ni narrer. Là, c'est vrai. L'inénarrable qui ne peut pas ni narrer. Ça n'existe pas. Le verbe au premier groupe, inénarré. Qui ne se narre pas, hein, qui ne se raconte pas. Inénarrable, l'ineffable. Pas mieux. L'incontournable, princesse de Clèves.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est fou. La bonne, c'est qu'il ne me connaît pas. Zéro casier judiciaire, retour à la case départ.
Formidable Alex Lutz, un prof rêvé hein, dans Jamais Contente, inénarrable. Qui peut définir le terme inénarrable? Marie Desplechin avec ma famille.
Ça, c'est une blague, c'est Laurent Guillot et Émilie qui ont...
Même
c'est...
pas.
Ah bon?
Non, ça s'est vraiment passé sur le tournage.
Ah bon, c'est vrai?
Les enfants qui faisaient la figuration, qui faisaient la classe, se prenaient totalement au jeu du prof. Ça, c'est grâce à Alex Lutz qui a mis en place vraiment ce qu'il voulait incarner comme prof, pas du tout, il cherchait pas à ressembler au prof, il a vraiment incarné un personnage de prof. Donc les enfants ont suivi, et effectivement, il y en a un qui travaillait, quoi, qui a dit, oui, c'est Ninaré.
Alors pourquoi avoir exhumé encore et encore la princesse de Clèves, Marie Desplechin?
Parce que je pense qu'on l'a...
On la maltraite?
Non, pas du tout, je m'en fiche un petit peu. Je pense qu'on la lit toujours... Ça m'amuse énormément de voir.
C'est ce que confirme la grand-mère. Hein. Ça fait partie de ces livres qu'on étudie, mais depuis un demi-siècle, qui reviennent en permanence dans les programmes scolaires et qui sont un peu les mal-aimés hein, des programmes.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est très marrant d'imaginer les gosses là de 13 ans et de voir défiler les livres des gosses qui n'ont rien lu avant, quoi, qui tombent du ciel en fait. Et on va les mettre devant des chefs-d'œuvre. Ça a été extrêmement légitime. Le texte intégral, ce qui là pour moi est toujours reste une question. Et on va leur demander de le lire, ce qui est énorme, de penser quelque chose. C'est juste une situation comique, c'est-à-dire il n'y a pas de critères de valeur là-dedans. Et dans le livre, j'en avais fait plusieurs. J'avais mis la princesse de Clèves, Tristan et Iseult, je ne sais plus, j'avais fait toute une série. Ouais, à la fin, ils en faisaient toujours la même histoire, il y avait toujours une histoire d'amour, les gens mouraient à la fin. Voilà. Et là, comme ça, voilà, on a gardé la princesse de Clèves.
Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce passage qu'on entend d'Alex Lutz, dans sa manière aussi de s'adresser à ses élèves, décomplexer l'approche du français, de la lecture, de la littérature, leur donner le goût aux enfants, aux ados, de lire, d'aimer cette langue. Il semble avoir la bonne méthode pour vous, ce prof. Ça évoque un peu comme un roman, hein, Daniel Pénax, dans cette idée, cette approche. Plaisir aussi, un peu de la lecture.
Moi, je vais retomber sur une de mes manies. Je pense qu'il les aime sincèrement. Quand on voit dans la classe, c'est pas une mauvaise. Il a un rapport avec eux qui est un rapport très, très amical. Et quand il parle de respect, c'est une forme de respect. Il a vraiment à sa bonne place d'adulte et d'enseignant. Et je pense que c'est ça qui marche après. Qu'il utilise telle ou telle méthode ou qu'il travaille sur telle ou telle. La manière dont il aborde les enfants et dont on voit qu'il aime la matière qu'il enseigne, c'est ça qui fait que ça marche. Si c'était votre question, Olivia.
C'était ça. Merci Marie Desplechin, invitée de la première partie de La Grande Table avec la réalisatrice Émilie Deleuze pour Jamais Contente en salle aujourd'hui, France Culture, il est 12h22 déjà.
les éclairs que nous voulions, les soirs de première et les tourbillons. Et on s'en fout si on a des soucis, puisqu'on est aussi ouvert la nuit. On se demande ce que l'on devient, ce qu'on va faire avec le jour qui vient. La mélancolie, la jolie jolie, elle nous garde ainsi ouvert la nuit. On s'aime pas, mais on s'aime. Ça ira pas, mais ça ira quand même. Il y a un singe dans la lumière des phares, des lampions, des fanfares. Il y a dans la fête comme une voix secrète qui dit toujours d'être ouvert la nuit. On peut se sauver par la contre-allée ou faire l'amour dans l'armoire à balai. On peut dans la vie aller sans envie vers le jour qui suit ou vers la nuit. On s'aime pas, mais on s'aime. Ça ira pas, mais ça ira quand même.
Balade musicale nocturne écrite et composée spécialement pour un road movie dans la nuit, celui d'Edouard Baird, ouvert la nuit en salle aussi aujourd'hui, avec entre autres Audrey Tautou, Grégory Gadebois et Edouard Baird évidemment devant et derrière la caméra. Ouvert la nuit, chanson signée Alain Souchon. Alain Souchon, ce serait pas le chanteur qui, comme votre héroïne, est jamais content, je crois, c'est ça?
Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Jamais contente. Le titre vient pas d'Alain Souchon, Marie Desplechin, Émilie Deleuze?
Non, non, je pense, il vient de la vie, c'est du « t'es jamais contente », que les parents envoient leurs gosses quand ils sont à l'âge de l'entendre.
Voilà, Alain Souchon, autre grand enfant. Quels sont les travers possibles qu'il faut à tout prix éviter, Émilie Deleuze, quand on tourne un film sur l'adolescence? On a commencé à l'évoquer avec le positionnement de la caméra. Le teen movie, c'est un genre qui est quand même assez codifié. La gifle, on se souvient de la dispute entre Adjani et Ventura. Les beaux gosses de Riyad Satouf, un peu plus récemment. La Boum, qui a marqué mon adolescence à moi, en tout cas. Juno de Reitman. LOL de Lisa Asuelos, qui est plus récent et qui a aussi marqué bon nombre d'adolescents, sortis en 2009. Comment vous avez joué avec ces codes? Comment ne pas raconter toujours la même histoire?
Je crois que le seul écueil à éviter, c'est de perdre la sincérité. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une structure effectivement aussi codifiée que le film de genre, faut pas oublier le plaisir que ça génère, c'est-à-dire il y a une forme d'humilité pour un metteur en scène qui est considéré comme auteur, qui se doit de se mettre derrière l'avancée de l'histoire, et puis de glisser par en dessous ce que lui y ressent, et d'être au service de l'histoire le mieux possible. S'il n'y a pas ce plaisir ou cette envie, vous faites un mauvais film. Après, comme dit pas moi, mais bon nombre de metteurs en scène, et dont Hitchcock le premier, c'est toutes les histoires se ressemblent toujours. Donc, que ça soit un film de genre ou que ça soit un film prétendu non de genre, je ne sais pas comment l'appeler, vous vous retrouvez toujours avec La même chose, c'est soit vous avez quelque chose à dire, que ça soit devant, que ça soit derrière, peu importe. Après, moi, je sais que le film de genre, ce que dans le fait d'avoir abordé ce film pour la première fois, ce genre pour la première fois, ce que j'en ressens, c'est ouais, j'emploie le mot jouissance parce que il y a quelque chose de très très joyeux dans le cinéma de genre.
Et en même temps, est-ce qu'elle se ressemble toujours aussi? Parce que l'adolescence, ça reste une question de cinéma que vous avez aussi déjà abordé. C'était en 94, Émilie Deleuze avec le téléfilm L'Incruste avec Claire Kame et Benoît Magimel, avant-dernier volet de la série à laquelle avaient entre autres participé aussi d'autres réalisateurs, André Téchiné, Claire Denis, Olivier Assayas. Ça s'appelait Tous les garçons et les filles de leur âge, clin d'œil à Françoise Hardy, hein, et à son titre de 62. Ça porté sur l'adolescence au début des années 80. Début des années 80, vous sortiez tout juste de l'adolescence, Émilie Deleuze. C'était vraiment différent d'être ado il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui.
Je n'ai pas l'impression tant que ça. Moi, je me sens très proche d'Aurore, par exemple. Enfin, j'ai retrouvé des choses tant dans ma propre adolescence que encore maintenant. Des colères un peu folles parce qu'elles se heurtent à rien. Rien de tangible, quoi. Ça je l'ai toujours. Et entre Aurore aujourd'hui et ce que j'étais, donc j'étais adolescente, moi, dans les années 75-80, c'est ça, à peu près
80. Oh, ouais, 80.
Il y avait pas grande... C'était toujours la même affaire. Hein.
Même affaire. Pareil pour vous, Marie Desplechin. Parce qu'en 94, quand sort L'Incruste, vous publiez vos premiers albums jeunesse, livres jeunesse, Le sac à dos d'Alphonse en 93, Rue de samedi pour Angèle en 94, à l'école des loisirs. On racontait peut-être pas exactement la même chose aux enfants et aux ados à cette époque-là. Si eux étaient les mêmes. Peut-être qu'on leur parlait autrement.
C'est assez difficile, en fait, de... C'est-à-dire, oui, c'est vrai, dans les années 80, il y a eu un changement dans la manière de s'adresser, de faire du roman au quotidien, en prenant l'expérience des enfants et en la... Voilà, oui, effectivement, il y a eu quelque chose de nouveau, sans doute, par rapport aux années précédentes. Mais il y a toujours eu une vague assez naturaliste dans le roman jeunesse, et ça depuis le 19e siècle.
Le journal d'Aurore, d'abord feuilleton, on le disait, puis roman en trois tomes, puis bande dessinée, bientôt peut-être comédie musicale. En tout cas, actuellement, c'est un film à voir au cinéma. Vous dites toujours non avant de dire oui, Marie Desplechin, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux, Émilie Deleuze, Marie Desplechin, d'être passée par nos studios France Culture. Il est bientôt midi et demi.